L'ombre sur le berceau, par Gabriel Volant. Un des premiers, Pierre Damazine quitta le modeste restaurant Prix-Fix, 7,50 francs, boisson comprise, qui, dans une rue peu passante, non loin de l'imposante Sorbonne, s'efforçait, sans toujours y parvenir, d'apaiser les jeunes appétits du quartier latin. Il était à peine 8 heures, encore toute une longue soirée devant soi. C'est vrai, on avait beau arriver le plus tard possible, bavarder avec ses voisins, ne point presser Jeanne, la serveuse, dont aussi bien la lenteur et le manque de mémoire étaient proverbiaux, couper menu quelques beefsteaks qui se défendaient héroïquement, rêver, pourquoi pas de géométrie, devant un étroit triangle de fromage, le repas était vite expédié, quoi que l'on fît pour le prolonger. Le lieu n'en était pas moins plaisant, la gaieté remplaçant la bonne chère, toute une vibrante et courageuse jeunesse se rassemblant, par groupes amicaux, autour des nappes de papier, et par des quolibets sans méchanceté, achevant de faire perdre à la pauvre Jeanne, chargée de plaques qu'elle ne savait à qui donner, le peu de tête qu'elle avait. Outre les effluves, plutôt composites de la cuisine, on respirait là un air de franche camaraderie. Des regards sympathiques et même, pour certains, quelque chose de plus, avaient suivi le départ de Pierre Damazine. C'étaient ceux de quelques étudiantes installées à la même table, floraison brune, blonde, rousse, brochette charmante et pépiante, de bonnes camarades qu'il avait gentiment saluées en passant, mais sans s'arrêter pour faire un bout de causette, car ce soir-là, il semblait plus soucieux encore qu'à l'accoutumée. La porte refermée, il eut des rires étouffés, mais qui, cela se sentait, n'était point de moquerie. N'était-ce point, parfois, pour les jeunes filles, une sorte de bravade, une façon en somme de donner le change sur un sentiment plus secret? C'est qu'il était digne d'éveiller un cœur, de faire naître un rêve ardent sous une permanente ou une indéfrisable, d'inspirer un amour passionné, ce garçon de 26 ans. Svelte, la taille bien cambrée, le cou dégagé, la tête droite, il paraissait plus grand qu'il n'était en réalité. Ses yeux bleus, qu'une songerie embrumait quelquefois, si bien qu'il semblait alors regarder choses et gens sans les voir, avaient une pensive douceur voisine de la mélancolie. Mais, à d'autres moments, ses prunelles devenaient nettes, brillantes, comme pour donner la preuve d'un esprit toujours en éveil, et le témoignage d'une volonté sans défaillance. Sans être vraiment beau, son visage étroit avait une franchise d'expression, une régularité de trait qui lui conférait une certaine noblesse. Rien d'un Adonis calamistré. Un homme. Tout de même, remarqua une jolie blonde, le pauvre type, ce qu'il a l'air de s'embêter depuis quelque temps. Celle-là, Solange Gagin, le bout en train de la bande, d'où la tristesse était bannie, souriait toujours, même, assurait-on, en présence des pires examinateurs, si bien que ces redoutables personnages, atteints, en toute honnêteté d'ailleurs, par les roses fléchettes décochées par l'arc de lèvres si gracieuses, perdaient miraculeusement de leur sévérité. Étudiante en droit, elle comptait bien, une fois avocate, agitant comme des ailes les manches de sa loge. Et le noirciait aux blondes, avoir le même pouvoir sur les juges de la correctionnelle et le juré des assises. À elle alors, les acquittements difficiles et la célébrité. « Oui, il me fait pitié, ce pauvre Pierre, » poursuivit-elle avec une petite moue. « Sans doute il n'est pas gai, mais ce n'est que trop compréhensible, » observa une autre qui, avec une lente gourmandise, pour faire durer le plaisir, savourait à menu béquille d'oiselet le dessert du jour, une tartelette aux cerises, guère plus grande que la boîte à poudre de riz déjà extraite de son sac à main et posée à côté de son assiette. « Voyons, ma chérie, mets-toi à sa place. Un diplôme d'ingénieur en poche, et il paraît qu'il est calé. De l'intelligence, du courage, et pas de situation, aucune fortune. Comment s'en tire-t-il? Il donne des leçons de latin à des mioches en retard dans leurs études. Une corvée et une misère. Si tu trouves que c'est drôle, ça l'époque. Naturellement, toi, Solange, tu ris de tout, rien ne t'atteint. Ah, tu crois ça? Fit gaiement la jolie blonde, rien ne m'atteint. Ma foi, c'est bien possible. Et tu dois avoir raison. À quoi bon se frapper? Et, en défi au destin, elle secoua sa courte chevelure dorée. Courageuse, elle tenait à sa réputation d'optimiste qui était la moitié de sa force et qu'aucun événement ne devait entamer. Une attitude pour la galerie, alors? Peut-être. Car lorsqu'elle était seule, le soir, dans son étroite chambre garnie, au milieu de ses bouquins de droit, devant ses cahiers de cours sur lesquels, telle une poussière d'ennui tombait la cendre de la cigarette éteinte qu'elle ne songeait pas à rallumer. Que de fois sa bouche avait un pli d'amertume. cette défaillance ne durait guère. Un coup d'œil au miroir et cette réflexion. « Eh bien, ma petite, tu en as une tête. Si on te voyait ainsi, personne ne te reconnaîtrait. Et hop, au travail, d'arrache-pied !» Son sourire refleurissait dans la fumée comme une rose dans un brouillard matinal. Ce n'est pas en appréhendant l'avenir que l'on arrive au but. Tu disais, il me fait pitié, donc il t'intéresse. Beaucoup, insinua malicieusement son ami. Moi, par exemple, protesta, trop vite peut-être, Solange Gagin. Et lui-même glisse de ton côté de ses œillades. Tu dérailles. Oh, en fait de déraillement, une collision sentimentale entre vous deux n'aurait rien de tragique. Va, crois-moi, ce serait pure charité. Essaie donc de le dérider. Installe-toi à sa table. Chiche, s'il s'agit seulement de le faire sourire, mais pas plus. Demain, nous nous mettrons toutes les deux en face de lui. C'est vrai, je n'aime pas voir un jeune homme broyé du noir.
Celui-là particulièrement.
Tu es folle. Sur ce, je file. En attendant la toque, son rêve, elle campait crânement sur sa tête dorée un petit béret. Cependant, bien loin, certes, de se douter que l'on parlait de lui avec tant de sympathie et d'intérêt, Pierre Damazine avait lentement gagné le boulevard Saint-Michel. Les enseignes lumineuses palpitaient comme pour faire oublier les étoiles invisibles, perdues, là-haut, au-dessus de la ville bruyante, à des millions de lieues, dans l'éternel silence de l'espace. Une odeur composite, alléchante, s'exhalait des bars, des cafés, dont les terrasses étaient garnies, car cette soirée de fin d'automne avait une incomparable douceur. On eût dit que l'air avait gardé quelque chose de la chaleur de l'été. Et Pierre se laissa emporter par l'indolente cohue qui, bavardant, discourant dans toutes les langues du globe, musant aux devantures, jouissait de cette heureuse trêve d'une arrière-saison favorisée. Quelqu'un lui frappait sur l'épaule, un de ses voisins du préfixe. « Si nous allions prendre un café ?» proposa ce camarade. Il désigna un établissement tout proche. « Non, non, merci, il faut que je rentre. Un travail urgent. « Boss, on a toujours une heure à perdre. »« Impossible, vraiment. » L'autre insistait en vain. C'était un octambule acharné. Après le café viendraient les bocs, les liqueurs. Des amis les rejoindraient. Il y en aurait pour jusqu'à la fermeture. Or, aujourd'hui, moins que jamais, il s'agissait de ne point se laisser entraîner. D'abord, par tempérament, il était sobre. Et puis, l'état de ses finances n'était pas assez brillant. Son portefeuille était d'une désespérante platitude. Tandis que tous deux discutaient, Solange Gagin passa, alerte, décidée et naturellement toujours souriante. Familièrement, le camarade de Pierre l'attrapa par le bras, l'attira. « Je parie que cette belle personne si pressée qui ne voit rien et qui rit aux anges court à une aventure sentimentale. « Mais oui, avouait-elle sans embâge, et quelle aventure, magnifique !» Elle se rapprochait, et à l'oreille des jeunes gens, si près qu'ils sentaient sur leur visage la chaude caresse de ses cheveux dorés, elle chuchotait en confidence « Écoutez, mais vous ne le répéterez à personne. Dites, je le jure. Bon, c'est qu'il va de ma réputation. Voilà, j'ai rendez-vous avec un grave personnage. Âgé, oh, très âgé même. Vous n'avez pas honte? Jeune, fraîche, un vieux bonhomme. Aucune honte? Si je lui suis fidèle, dévoué, si je fais toutes ses volontés, il me paiera une robe noire. Cette couleur me va si bien. Il me fera gagner des tas d'argent. Vous voudriez bien connaître son nom, hein? Mais non, il n'y a pas d'indiscrétion. C'est... Elle prit son temps pour aiguiser leur curiosité, puis lança. C'est le code. Un très gros et très vieux monsieur, n'est-ce pas? Mais aucunement compromettant pour une jeune fille. C'est mon livre de chevet, d'oreiller même. Je vais écouter ses déclarations. Voilà. » Il s'échappa, légère, en éclatant de rire, mais non sans avoir jeté un furtif regard de commisération ou d'autre chose, au sombre Pierre qui, lui semblait-il, avait un peu pâli pendant qu'elle débutait sa folle histoire. Quelques secondes après, lâchant le noctambule, le jeune homme prenait la même direction. « murmura l'autre en le regardant s'éloigner. « Le monsieur Code a peut-être bon dos. M'auraient-ils tous les deux monté un bateau ? » Mais, bon garçon, n'ayant rien d'un espion, il s'installa aussitôt à une terrasse où il venait de voir un autre ami. « Bon, ça les regarde. » Pourtant, bien qu'il vît Solange Gagin, cheminée à 10 mètres devant lui, Pierre Damazine ne pressait point son allure pour la rejoindre.
Sans doute elle lui plaisait, cette jeune fille, si franche, si nette, malgré son indépendance, et surtout si jolie. La serrant dans ses bras, comme il serait doux d'entendre son rire, qui deviendrait alors la chanson cristalline du bonheur. Elle était séduisante, désirable. Peut-être, mais oui, certains regards ne trompent point, n'avait-il qu'une petite phrase à prononcer, trois mots, « Je vous aime », pour que le grave personnage, le monsieur Code, ce soir-là, ou un autre tout proche, fût délaissé en faveur d'un autre livre entièrement écrit en point de suspension, c'est-à-dire en baiser. L'amour, ou du moins une de ces idylles, brève ou longue, comme il en est au quartier latin. Oui, mais cette jolie Solange, que pensait-elle de lui? Ne s'abusait-il point sur ses sentiments? Son rire, si prompt, était désarmant, et parfois il démentait la flamme tendre que l'on voyait dans ses prunelles. Et puis, non, mille fois non, pas de complications sentimentales, ce n'était pas le moment de plaisanter. Il laissa Solange disparaître dans la petite rue où se trouvait sa pension de famille. Avant que la fine silhouette de l'étudiant ne s'évanouît dans l'ombre, il vit encore ses cheveux tout éclairés par la devanture d'un magasin. Et ce fut comme un lumineux adieu d'une seconde. Plus lent, plus las, plus sombre après ce rêve de tendresse et cette vision d'or, il se dirigeait vers son propre hôtel. Le jardin du Luxembourg qu'il était en train de longer et dont les statues, dressées çà et là, rendues à leur solitude nocturne, perdant la consistance de la pierre ou du marbre, évoquaient de vaporeux fantômes, lui envoya son âcre, sa mélancolique odeur de terre humide et de feuilles mortes. Et cela assombrit encore ses pensées. Le printemps revenu pourrait-il, ayant enfin trouvé la situation qu'il cherchait en vain, jouir pleinement du soleil, sous la jeune frondaison des marronniers, avec, mais oui, pourquoi pas, avec Solange? D'ici là, pas de bêtises. Nous ne sommes pas à une époque qui s'accommode de l'insoucieuse vie de bohème que menaient étudiants, artistes, lorettes et grisettes d'autrefois.
Rien pour moi au courrier? Demanda-t-il au bureau de l'hôtel.
Rien, monsieur. Bien qu'il nourrît toujours le tenace espoir d'une heureuse nouvelle, cette réponse ne le surprit pas. Il finissait par avoir l'habitude de l'entendre. Pourtant, outre les démarches qu'il faisait, il en écrivait des lettres de sollicitation. Toujours la guigne. Il gagna sa chambre, s'installa à sa table, prit son stylo. Le fameux travail urgent, dont tout à l'heure il avait pris prétexte pour ne pas accompagner au café son voisin du préfixe.
Tout bonnement une missive à ses parents. Quatre grandes pages. Ils y tenaient, les braves gens, qu'ils liraient, reliraient là-bas, dans un coin de province. Quatre pages de pieux mensonges, d'ailleurs. Tout allait pour le mieux. Il était content. Et il brodait sur ce thème, donnait des détails sur ses occupations. À quoi bon les attrister, les mettre en souci?
Hein, et j'eus raison d'en faire un ingénieur, faisait joyeusement le père, qui s'était privé pour que son garçon fît des études.
Avec son intelligence, sa valeur, je savais bien qu'il réussirait.
Et sa mère, c'était une bretonne peu loquace. Pierre tenait d'elle ses yeux bleus, que la songerie embrumait souvent. Sa mère hochait doucement la tête sans répondre.
Flairait-elle parfois la triste vérité sous les phrases alertes? Il y a toujours un lien entre une mère et son petit, une sorte de cordon ombilical des âmes. Toujours est-il qu'en cachet de son mari, il lui arrivait de glisser un mandat dans ses lettres. On frappa à la porte. Un pneumatique. Qu'annonçait ce rectangle bleu? Son azur trompeur ne pouvait apporter qu'une nouvelle désillusion, quelques mauvaises nouvelles.
Mon vieux, demain dimanche, viens donc déjeuner à la maison. Cela me permettra de t'entretenir de quelque chose qui, je crois, peut t'intéresser. Une situation en vue. Mais, justement, il est nécessaire que je te voie. En toute amitié, Frédéric.
Ah, quel chic type ce Frédéric Maniche.
Comme beaucoup. Mais oui, comment donc? Compte absolument sur moi. Il avait promis de s'occuper de lui.
Des promesses des autres, autant n'avait emporté le vent de l'indifférence, de l'oubli.
Frédéric avait tenu parole. Et Pierre Damasie ne quittait pas des yeux le message. Ce léger papier bleu. Mais c'était en vérité un petit lambeau d'azur qui commença à vaincre les nuages.
Le lendemain, il arrivait dans un coquet pavillon de la banlieue où Frédéric Maniche, marié depuis moins d'un an, nichait son bonheur. Une gracieuse jeune femme vint lui ouvrir la grille. Certes, là aussi, des feuilles mortes palpitaient sur l'étroite pelouse. Mais grâce au sortilège de l'amour, elle ne semblait pas avoir l'odeur amère, presque funèbre, de celle que la veille il entendait bruisser dans l'ombre lorsqu'il longeait le jardin du Luxembourg désert. Il avait l'impression que des ailes d'or accompagnaient les pas légers qui le précédaient vers le perron. « Voici, » disait bientôt Frédéric Maniche, devant une table bien servie autour de laquelle s'empressait une alerte servante qui n'avait rien, elle non plus, de la gêne du préfixe. « Je t'avais parlé d'un de mes cousins, ingénieur comme toi, qui est dans une usine hydroélectrique en Franche-Comté. Je lui écris. Il a justement besoin d'un adjoint. C'est urgent. Il faudrait partir sans tarder. Les appointements sont assez intéressants. Ça te plaît ?»«
Si ça me plaît. Ah, mon vieux, comment te remercier ?»
Enfin, il n'aurait plus besoin de mentir à ses parents. Il la tenait, la situation tant désirée. La vie était belle. Le soir, la figure illuminée, il gagna son petit restaurant. Le dernier repas. Solange Gagin et son ami arrivèrent, s'installèrent en face de lui comme elle l'avait projeté.
« Oh !» chuchota la jolie blonde à l'oreille de l'autre, « comme il a l'air gai.
Nous arrivons trop tard pour le dérider. La place est prise. » Peut-être, pensait-elle, par qui ? Seule une femme, n'est-ce pas, avait pu transformer un garçon à ce point. Cependant, Pierre Damazine, tout vibrant, communiquait bientôt à la ronde la grande nouvelle.
Ce qui permit à la nonchalante et curieuse Jeanne de s'attarder davantage avec un édifice de plaques qu'elle ne savait à qui donner.
Je pars demain.
Au diable, là-bas, dans les montagnes, près de la Suisse.
Pour longtemps ?
Questionna Solange.
Les sports d'hiver, c'est un peu tôt. Mais pour toujours, j'espère.
Il donnait des explications.
Je suis bien heureuse,
fit-elle, et elle se mit à rire doucement.
Si par hasard, vous revenez sur le boulemiche.
Avant la fin de mes études, naturellement,
ne m'oubliez pas.
Un petit bonjour en copain, ça fait toujours plaisir.
Elle s'est élevée.
Tiens, pourtant gourmande, elle laissait son dessert, un baba qui oscillait sur son assiette, comme un homme ivre, bien qu'il ne fût certainement pas beaucoup imbibé de rhum. Elle tendait la main.
Une pression chaleureuse, presque virile.
« Oui, je suis bien heureuse, » répéta-t-elle. « Au revoir ou adieu.
Je rejoins mon vieux monsieur. »
Mais le code, ce soir-là, l'ouvrit-elle ?
Dans le train, Pierre Damazine se réjouissait. Mais, quand aux premières heures du matin, transi, il débarqua à Baloir-sur-Talouse, qu'il franchit le portillon de la gare, il faillit déchanter, craignant que son caractère, déjà porté à la mélancolie, ne devint plus sombre encore. La ville suait l'ennui. Bon, il avait sa situation à faire. Le soin d'assurer son avenir, et à 26 ans il était grand temps, après des mois d'inaction forcée, méritait bien cet exil assez lucratif au sein d'une province en distraction bien palpitante. Évidemment, après le gai boulemiche, les blondes Solange qui le soir vous font rêver, tant d'autres jolies filles hardies qui se disent étudiantes, le premier contact avec cette petite ville manquait plutôt de charme. Elle se blottissait, quiète et morose, à demi endormie encore, dans le giron d'une vallée étroite. Les deux bras d'une rivière l'enlaçaient d'une molle étreinte, et pour comble, ce jour-là, un brouillard épais, qui devait être fréquent en automne, dans ce pays copieusement baigné, ouatait le décor, bouchait les rues, estompait la silhouette des rares passants sabotant sur les pavés pointus. Au loin, grondait le sourd tonnerre d'une chute d'eau. C'était de ce côté que se trouvait l'usine hydroélectrique où il exercerait ses fonctions. Que ferait-il de ses heures de liberté ? Sans doute des parties de cartes dans quelque café pareil à celui où il était en train de prendre son petit déjeuner, et où, parmi la fumée des pipes et des cigarettes, un garçon somnolent se meut lentement à la façon d'un fantôme familier, portant comme un pan de suaire sa serviette froissée sur le bras. Sa valise déposée à l'hôtel, il se dirigea vers l'usine. Le fracas, maintenant retentissant de la chute d'eau, lui servait de guide. D'ailleurs, le brouillard, vu par un jaune soleil automnal, s'était dissipé. À l'horizon, on voyait des montagnes obscurcies par la ténébreuse armée des sapins qui, tels des chevaliers d'autrefois, semblaient encore protéger la dernière tour en ruine d'un château féodal. Monsieur Jacques Borège, l'ingénieur à qui son ami l'avait si heureusement recommandé, un homme déjà grisonnant, dont il allait devenir l'adjoint, car l'affaire prenait de l'extension, extrêmement sympathique. Le directeur administratif, M. Touvagne, se montra fort cordial. Tout irait bien. Le soir, Pierre put écrire à ses parents une lettre exempte du moindre mensonge. Vint l'hiver. Le givre hérissa les bois, les broussailles, d'aiguilles d'argent. Puis la neige tomba, abondante. Les sombres sapins revêtirent une blanche armure. Comme promenade, se rendre à l'usine et en revenir suffisait. Il fallait se calfeutrer le reste du temps, et comme il l'avait prévu, dans un café qui ne rappelait en rien ceux du quartier latin. Les habitués, qui avaient fait le meilleur accueil à Pierre Damazine, joueurs habiles, fonctionnaires, retraités, rentiers, n'étaient pas bruyants. Jacques Borège ne faisait que de rares apparitions. Dame, il était marié, et il adorait sa femme, d'autant plus qu'il approchait de la cinquantaine et que celle-ci avait 20 ans de moins que lui. Elle était charmante, cette Marie Borège. Ayant dîné chez eux à plusieurs reprises, le jeune homme avait pu la juger. Pas très démonstrative, peut-être, au premier abord. Mais c'est assez la coutume dans les pays de la montagne, où les gens ne se livrent que peu à peu. En ce qui concernait son mari, elle n'avait Dieu que pour lui, qui la gâtait de toutes les manières. Le couple vivait dans une maison spacieuse en compagnie du père de la jeune femme. Un type, ce César Butois, ancien fermier, devenu veuf, qui avait pour sa Marie une adoration, une admiration sans bornes. Il n'avait point voulu que sa fille, enfant unique, si jolie, si fine, si distinguée, se livrât aux rudes travaux des champs et, pour finir, épousa quelque cultivateur. Celui-ci eut-il de grands biens au soleil. Il en ferait une demoiselle. N'aurait-elle pas une grosse dot? Et Marie était sortie du meilleur pensionnat de la contrée, plus affiné encore, pour épouser, à quelque temps de là, un monsieur, ce qui avait comblé d'aise et d'orgueil César Butois. Aussi bien, n'avait-il pas raison de se réjouir? Sa fille était pleinement heureuse. Le ménage marchait à la perfection, malgré la différence d'âge, qui s'accusait davantage, les années s'accumulant. Pour lui, il avait vendu sa ferme, non sans regret, tant il gardait l'amour de la terre. Mais celui qu'il avait pour sa Marie primait tout autre sentiment, et il ne voulait plus la quitter. Toutefois, il n'avait pas perdu contact avec les choses de la nature, les animaux. Au fond du grand jardin, son domaine réservé, où des fleurs, pour Marie, bien entendu, encensaient de superbes légumes, il avait installé un clapier, un poulailler, un pigeonnier. Des canards s'en allaient au fil de la rivière. « Et nous avons eu toutes les peines du monde, disait son gendre en riant, de l'empêcher d'amener un cochon, voire une vache. » Jetant du grain à son peuple ailé, faisant de l'herbe pour ses lapins, bêchant, sarclant, émondant, il travaillait toute la journée. C'est qu'il avait tant de force à dépenser. Septuagénaire, il était droit comme un nid. Le soleil n'était pas encore levé qu'on l'entendait déjà saboter dans la cour, sur les dalles de la cuisine. Et d'un caractère si joyeux, si optimiste. Quel que fût l'état du ciel, le temps, à son avis, était toujours propice. En août, le soleil torride crevassait-il la terre. Beau temps pour la moisson, disait-il. Pleuvait-il à torrents. Beau temps pour la salade, criait-il aux passants qui filaient en courbant le dos. De la neige. Eh bien, beau temps pour ceux qui veulent faire du ski sur nos montagnes. Et un rire sonore accompagnait ces paroles d'inaltérable bonne humeur. Installés à leur place immuable, les habitués jouaient aux cartes. C'était un samedi après-midi, semaine anglaise. Aussi Pierre Damazine était-il là. Le vieux César Butois également, dont les larges mains brunes, terreuses, aux veines saillantes, caressaient doucement le tapis d'un verre passé, comme si c'eût été l'herbe rase et roussie d'un pré. Un pâle soleil d'hiver faisait scintiller les vitres embuées. « Beau temps pour les mioches !» avait dit l'ancien fermier en entrant. « Ah, ils s'en donnent, les gaillards !» En effet, sortant d'une école toute proche, les enfants menaient leur guet-apage, se poursuivaient en criant à tue-tête, et la perspective du dimanche augmentait encore leur allégresse. La trompe d'une auto se fit entendre. Une voiture passa en trompe devant la porte. On devina une bousculade de gamins se dispersant. « Inutile de demander qui c'est !» grogna un joueur. « Celui-là, avec ses vitesses folles, tant qu'il n'aura pas causé un accident !» grommela un autre. « Un accident ! » fit un troisième sur un ton ironique. « Mais mon cher ami, si notre beau Morov, il appuya sur ce mot, beau, blessait mortellement un malheureux gamin, et cela lui arrivera quelques jours, il se pourrait que ce fût un infanticide. On ne sait jamais avec lui. » « Oh, tout de même, vous exagérez. »«
À peine. Il a fait tourner tant de têtes, enjolé tant de filles. » »«
Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Pas plus séduisant qu'un autre, le soi-disant beau Morov.
Mais il a une façon d'ensorceler les femmes.
Enfin, ça regarde les maris et les pères.
Moi, je m'en fiche, je suis célibataire. Personne à surveiller dans mon entourage
que mon jeu. » Il étala ses cartes en éventail.
« La dame de pique, voilà, mes seuls amours. »
Cet individu, trancha César Butois, n'est rien d'autre chose qu'un propre à rien, un incapable, un osseur, qui mangera jusqu'au dernier sou de la fortune que son père lui a laissée. Sa voix rude de vieux paysan économe, pour qui un patrimoine doit être non seulement respecté, mais encore accru, vibrait d'une sourde irritation. Et dire que cet individu, ainsi qu'il le nommait avec un profond dédain, avait osé autrefois lui demander Marie en mariage. Sa pure enfant, dans de telles mains. Il lui fallut être fou pour consentir à une union pareille. Il n'avait jamais parlé à personne, pas même à sa fille, de cette démarche. Les parties continuaient. Pierre Damazine, nouveau venu, n'était pas assez au courant de la chronique régionale pour avoir tout compris de cette conversation. Sans se faire prier, un voisin le renseigna, à mi-voix, pour ne point troubler les joueurs. Compte tenu de l'exagération provinciale, ce Gustave Morov méritait en somme sa fâcheuse réputation. Il habitait Barlançon, une ville de 50 000 âmes, située à une trentaine de kilomètres, et sa puissante voiture rouge était célèbre dans la région. Il la conduisait à des allures de record, en vrai sportif, tel un coureur. Un coureur, mais pas seulement en auto, faisait en souriant celui qui documentait Pierre. Que de filles séduites par son audace, ses manières enjôleuses, ses promesses mensongères, pouvaient lui montrer le poing ou pleurer en silence lorsqu'il passait à toute vitesse. On prétendait même, mais quelles histoires la méchanceté n'invente-t-elle pas, que des femmes mariées. C'est pourquoi tout à l'heure un des joueurs avait pu ironiquement donner le nom d'infanticide, un accident possible. Si jusqu'à ce jour Pierre Damazine n'avait pas entendu parler de Gustave Morov, c'est que depuis plusieurs mois, celui-ci désertait la petite ville. Sans doute avait-il des aventures autre part. À une certaine époque, on ne voyait que lui, à Ballois-sur-Télouse. Il chassait alors dans les environs, en tout bien tout honneur d'ailleurs, car c'était un fusil de première force. La trompe se fit entendre de nouveau. La voiture stoppa devant le café dont la porte fut ouverte d'une brusque poussée. « Zut !» grogna un des joueurs. « Il aurait bien pu passer son chemin. » S'il croit que sa visite nous fait plaisir. Quant au père César Butois, il ne daigna pas lever les yeux. Ce Morov, ce piètre individu, cet inutile, qui dévorait une fortune laborieusement acquise, il voulait l'ignorer. L'homme qui entra pouvait avoir 30 ans, pas beaucoup plus. Ce qui d'abord frappait en lui, c'était son air de suffisance. Grand, musclé, les épaules larges, il portait haut sa tête au nez busqué et aux yeux rapprochés. Vu sa réputation, un superbe oiseau de proie, alors? Non, un banal rapace, pas laid d'ailleurs, mais qui n'avait rien d'irrésistible. Que faible devait être celle qui tombait dans ses serres. Ce fut du moins l'opinion de Pierre. Mais les hommes sont mauvais juges en pareille matière. Auprès de qui il vint s'asseoir, après avoir serré quelques mains mollement offertes à son étreinte. Que lui importait? On sentait qu'il n'avait cure du jugement d'autrui. Il promenait dans la salle, plus silencieuse encore depuis qu'il était là, presque hostile, des regards d'assurance. Il se plaisait à tout braver, cela se devinait, à sa façon de parler haut, de rire bruyamment. En vérité, un don Juan sans beaucoup d'envergure, à la mesure d'une toute petite ville. 5 minutes après, il avait lié conversation avec Pierre. « Vous vous plaisez ici? Sale pays, n'est-ce pas? Oh, ne protestez pas parce que ces messieurs nous entendent. Quand on vient de Paris, là, on s'y amuse. Vous devez en avoir des souvenirs d'amour. Et le boulmige, j'y vais de temps en temps. » Il se frottait les mains, ses yeux brillaient. Pierre Damazine hochait doucement la tête avec un air d'approbation, de complicité même. Cela, mon Dieu, par lâcheté, pour ne point paraître trop godiche. Mais il pensait. De ce boulevard Saint-Michel, tu n'as vu en jouisseur que l'apparence fêtarde. Tu ignores son fond si studieux, si courageux. Sous la houle frémissante des rires. Des cafés illuminés, sans doute, mais les petites lampes de travail dans les chambres étroites. Et surtout, tu ne connais pas une seule ange. Ayant lampé son verre d'alcool, Morov se levait.
Vous avez une tête qui me revient,
disait-il à l'ingénieur. Nous pourrions devenir bons copains.
Quand ça vous chantera, que vous voudrez vous amuser, je vous emmènerai à Barlançon. Il y a des ressources, on peut s'y distraire,
quand on est avec moi. Le jeune homme ne répondit ni oui ni non.
Ouf, dirent la plupart des joueurs lorsque Morov eut disparu. Et l'un ajouta, s'il pouvait se casser la figure au premier tournant, ce serait un bon débarras.
Le père Butois, son gendre n'était pas là, rejoignit Pierre Damazine qui s'en allait.
Il vous plaît, l'individu ? Demanda-t-il. Oh, pas du tout.
Pierre ne mentait point.
Ça ne m'étonne pas, fit l'ancien fermier. Vous, si net, si franc, ne pourriez supporter la compagnie de cet être hâbleur et fourbe. Je me demande ce qu'il vient encore manigancer ici.
Il a sans doute jeté son dévolu sur quelque malheureuse qui a des pleurs en réserve.
Bon, me voici à la maison. Bonsoir.
Et comme les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel pur, que la bise aiguë leur sifflait aux oreilles, il lança son refrain habituel.
Il va geler dur, beau temps.
Que diable allait-il trouver?
Il hésita une seconde.
Beau temps pour les mioches qui aiment faire des glissades.
Vraiment, il lui était sympathique, cet ingénieur dont son gendre disait tant de bien,
et qui n'était pas d'humeur à se laisser entraîner par ce Morov.
Quand on pense, manquerait-il, que ce triste sire le toupait de me demander ma petite Marie.
Le printemps était enfin venu. De s'être laissé longtemps désirer, il n'avait que plus de valeur et de charme. La sève se hâtait pour attraper le temps perdu. Les odeurs encore un peu acides parcouraient les bois, les plaines. Le soleil, déjà chaleureux, ne tarderait guère à leur donner un doux parfum de miel. Des fleurs blanches, pareillées de tremblants flocons de neige attardés, ornaient les buissons, les prés. La nature mettait sa parure virginale du renouveau, et la petite ville, encerclée presque amoureusement par les deux bras de la rivière, avait un certain attrait. Avec ses toits d'ardoise ou de tuiles, doucement argentés ou rosis par les crayons, elle semblait s'éveiller et s'étirer le long de l'eau, toute scintillante de reflets qui baignaient ses jardins. Et Pierre Damazine, sans souci matériel, se sentait allègre. Bien sûr, il évoquait parfois, non sans nostalgie, le Luxembourg, ses marronniers, ses statues, et était souvent une fine silhouette aux cheveux blonds. Au fait, cette Solange, que faisait-elle? Que devenait-elle? Vieille histoire déjà, sur laquelle tout un hiver avait neigé, l'ensevelissant peu à peu. Pour tout dire, le jeune homme s'était laissé doucement enliser, sans révolte, par la vie de province si uniforme. Le tonnerre de la chute d'eau vers laquelle, ce matin-là, il s'acheminait pour prendre son service, étouffait le bruit cristallin du rire, dont il cherchait le frais écho au fond de sa mémoire, sans toujours le retrouver. Il entendit une auto derrière lui. « Eh bien, rêveur ?» On l'interpellait cordialement, tandis qu'il marchait, mordiant une herbe et respirant les vertes senteurs du printemps. C'était M. Borège qui venait de le rattraper.
« Montez donc !»
Pas un chef, un ami, ce Jacques Borège, qui semblait avoir de la gaieté à revendre, si bien que, malgré l'approche de la cinquantaine, il gardait son allure juvénile.
« Pourquoi serais-je morose ?» se plaisait-il à dire.
« J'ai une femme charmante. » Sa mari, il l'adorait, et elle le lui rendait bien.
« Et un beau-père pour qui tout est motif à se réjouir. »
Qu'il vente ou qu'il pleuve à ne pas mettre un chien dehors, pour lui c'est toujours le beau temps. Vivant dans une telle atmosphère, je vois tout en rose.
Tous deux s'entretinrent de questions de service, puis, comme ils descendaient dans la cour de l'usine, M. Borège dit à Pierre
« À propos d'Amazine, vous ne vous ennuyez pas dans votre hôtel qui, au surplus, n'est pas très confortable ?»«
Un peu, hein ?»«
Alors, voulez-vous vous installer chez nous ?
La maison est vaste, la chair succulente. Voyez plutôt ma mine.
Je n'ai pas l'air de jeûner.
Ma femme est une fine cuisinière.
Ce sera pour nous une distraction.
Elle vous plaît, cette vie de famille?
Bon, entendu. Naturellement, vous serez libre comme l'air. Il ajouta. Vous savez que vous êtes extrêmement sympathique à mon beau-père.
Il ne jure que par vous.
Mais je vous préviens, gare aux interminables parties de cartes.
Ça, c'est un coup du père Butois, pensa aussitôt le jeune homme.
Mon attitude vis-à-vis du Morov lui a plu.
En outre, je suis meilleur joueur que son gendre.
Il tient à m'avoir sous la main.
Oui, c'est à lui que je dois cette offre, car dans le ménage, il fait la pluie et le beau temps. Surtout le beau temps.
Pourquoi aurait-il refusé? M. Borège lui avait toujours témoigné le plus vif intérêt.
Quant à sa femme, elle était charmante. Il prit donc possession d'une belle chambre. Maintenant, il avait l'impression d'être chez des parents. Un mois après, Jacques Borège dut partir pour Paris. De nouvelles machines à étudier. Son absence durait une bonne quinzaine. Il eut bien voulu que sa femme l'accompagnât, mais celle-ci le pria doucement de la laisser. Elle se sentait un peu souffrante. Oh, rien. Il ne fallait pas qu'il s'inquiétât. De la fatigue seulement, de la nervosité, peut-être. En effet, depuis quelque temps, elle était pâle. Elle tressaillait au moindre bruit. Ses yeux avaient la large cernure bleuâtre du mauvais sommeil. Elle allait se reposer, faire de longues siestes au jardin pavoisé aux couleurs printanières et, à son retour, il la trouverait toute rose. « Je vous la confie, » dit-il à son beau-père en train de pêcher. « Soignez-la bien. » S'il avait pu se douter quel sens allait prendre ce « je vous la confie », il ne serait pas monté si allègrement dans son auto. Il n'aurait pas jeté un tel regard de confiance et de tendresse à Marie qui agitait sa main en signe d'adieu. Pierre avait longtemps joué avec le père Butois. Bientôt minuit. « Bigre, c'est le moment d'aller se coucher, » fit l'ancien fermier, qui, à sa grande joie, venait de gagner la belle. Ils montèrent l'escalier à pas furtif pour ne point troubler le sommeil de Madame Borège, qui, toujours là, assez pâle, l'air absent, les yeux vagues, qu'avait-elle donc, s'était retirée de bonne heure. Pierre ne se mit pas au lit immédiatement. Ayant éteint sa lampe, à demi déshabillé, chaussé de sandales, il entr'ouvrit doucement sa fenêtre qui donnait sur la rivière et alluma une cigarette. La lune écornait son croissant au-dessus de la montagne que les sapins hérissaient de leur sombre dentelure. Là-bas, on entendait le sourd tonnerre de la chute d'eau. Mais autour de lui, le silence était si profond qu'il percevait, bien que sa chambre fût au premier étage, le molle clapotis de l'onde filant le long de la rive. La maison dormait en toute quiétude. Combien de temps resta-t-il ainsi à rêver face à la féerie nocturne? Il referma la croisée, fit quelques pas à tâtons sans même rallumer l'électricité. Et ce fut à ce moment que... Mais oui, il ne se trompait pas. Des bruits venaient du rez-de-chaussée, du salon, où il se trouvait tout à l'heure avec le père Butois. Quelque chose comme une sourde agitation. Intrigué, inquiet même, il ouvrit sa porte, descendit deux ou trois marches. Et soudain, il fut cloué sur place par ces mots clamés d'une voix retentissante. « Vous, vous ici, filez !» Si je n'avais pas peur du scandale, je vous abattrais comme un chien. Filez, tonnerre, et plus vite que ça, ou je ne réponds plus de moi. C'était l'ancien fermier qui criait ainsi. On le sentait en proie à une fureur sans nom. Pierre ne bougeait plus. Qu'est-ce que cela signifiait? Il entendit le bruit d'un moteur que l'on mettait en marche, puis celui d'une trompe, au son traînant, lugubre. Ah, ce son! Il avait compris. Gustave Morov. Voilà donc la cause de la pâleur, de la nervosité de Madame Borège, le pourquoi de ses yeux cernés, de ses insomnies, de son refus d'accompagner son mari. Un mauvais rêve ne lui laissait plus de repos, un honteux désir qu'elle avait en vain essayé de combattre. Mais oui, elle était honnête, paisible jusque-là. La troublait, faisant d'elle une proie désespérée, pourtant consentante. Ayant claqué les portes derrière le larron d'honneur, César Butois, toujours hors de lui, revenait, en justicier, vers sa fille, que l'on devinait, écroulée, à genoux, cachant son visage de ses mains jointes. « À nous deux, maintenant, toi, toi, quelle honte !»« Pardon, papa, pardon, pardon !» Des sanglots l'étouffaient. Le vieillard gardait un silence farouche. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, » balbutiait-elle à travers ses larmes. « Mais je te jure sur ce que j'ai de plus cher, sur toi, papa. » « Tais-toi, je te défends !»« Sous la tombe de maman, qu'il n'y a rien, rien eu entre nous. Il venait d'arriver, c'était la première fois. »« Et si moi, je n'étais pas arrivé ? Et même si tu dis vrai, si tu n'as pas failli, tout ce que cela représente de dissimulation, de mensonge, tu lui avais accordé ce rendez-vous, chez toi, ah malheureuse !» Les voix étaient devenues plus sourdes. À présent, Pierre Damasine avait peine à les entendre. « Toi !» que j'ai élevé si honnêtement, qui a un mari parfait. Non, non, laisse-moi! Elle voulait sans doute l'enlacer. Tu n'es plus ma fille, je n'ai plus d'enfant. Alors monta un cri puéril mais déchirant, un cri venu du fond de l'enfance. Mon papa! Et brusquement, à cet appel qui lui rappelait tant de choses, ce fut au père, à bout de force, de sangloter. Marie, ma petite fille, toi qui étais tout pour moi, ma joie, mon orgueil, que j'ai de chagrin. n'est-ce pas, que c'est un mauvais rêve, que rien ne s'est passé, que tu es toujours digne de moi, que de ton pauvre mari. Le malheureux, s'il se doutait. Je te jure, papa, pardon, ouvre-moi tes bras. Oui, embrasse-moi, viens te coucher. Je vais te veiller comme lorsque tu étais toute petite, que tu étais malade. Tu te souviens, avec des cauchemars. Encore quelques balbutiements presque imperceptibles, quelques plaintes, puis peu à peu, tout se tut. Lumière éteinte, mais quels yeux pleins de larmes restaient grands ouverts dans l'ombre. La nuit ensevelissait ce drame secret dans ses ténèbres. Bouleversé, Pierre Damazine ne put dormir. Le jour parut. Irait-il prendre son petit déjeuner? C'était bien délicat. Pourtant, il était censé ne rien savoir. D'ailleurs, sans doute, serait-il seul à table. Non, Madame Borège et son père, tous deux livides, étaient là. Il s'installa, bavarda comme à l'habitude. Les autres, l'esprit ailleurs, répondaient de leur mieux. Soudain, un son de trompe déchira l'air. Une suprême bravade de Morove, qui, déçue sa tentative avortée, était allée coucher à l'hôtel et qui, au lieu de faire un détour pour regagner Barlançon, passait devant la maison. Le vieux fermier avait serré les poings. Sa fille, exsangue, sur le point de défaillir, il la regarda, non avec colère, mais avec une pitié infinie. Ce cœur, si pur jusque-là, dans lequel quelques gouttes d'un ardent poison s'étaient glissées, il s'agissait de le guérir. Encore la trompe au loin, et toujours ses poings serrés, cette pâleur mortelle, ses regards chargés à la fois de honte et d'une tendresse alarmée. Un silence pesa que rien ne semblait pouvoir rompre. Pierre Damazine en profita pour se lever, prendre congé. Vraiment, il avait l'impression de se trouver dans une chambre mortuaire. Il atteignit la grille de la rue lorsqu'une main se posa en tremblant sur son épaule. « Monsieur Damazine, cette nuit, vous avez entendu ?»« Pourquoi mentir ?» Et le vieillard fixait sur lui des yeux si pénétrants. « Oui, » murmura-t-il. « Et vous avez compris ?»« Oui, » fit-il encore. « C'était un mauvais rêve. Oublions-le, vous et nous. Elle, je la guérirai. Surtout, pas un mot à qui que ce soit, à mon gendre. »« Oh, pouvez-vous croire ?» protesta-t-il ardemment. « Oui, j'ai confiance en vous. Marie, pauvre petite. Ah, ce Morove, si un jour je le rencontrais à la chasse, il ne pèserait pas lourd au bout de mon fusil. Un accident est si vite arrivé. Ni vu ni connu. » Un voisin passait. Il n'eut pas le courage de lui crier « Beau temps ». Pourtant, le ciel était bleu, et vers le soleil, la terre qu'il aimait tant faisait monter la promesse des futures moissons. Mais à présent, trop d'ombre pesait sur son esprit, éteignant la pureté de l'azur et l'éclat des rayons. Encore une année, et de nouveau, les premiers jours du printemps. Qu'il était beau, celui-là, d'une variété de couleurs, d'une suavité d'odeur, que l'autre, à coup sûr, n'avait point. Du moins, il paraissait tel à Pierre. Ce n'était pas une floraison, mais une explosion de corolles, un feu d'artifice embaumé. La brise vagabonde courait sans arrêt d'une haie d'aubépine à l'autre, pour en recueillir les parfums qu'elle vous jetait au visage, tout en jouant de furtifs airs de pipeau dans la verdure neuve. Et Baloire-sur-Télouse, quelle ville délicieuse! Au comble du ravissement, il la découvrait. Il ne demandait qu'une chose, ne jamais la quitter. Adieu, Paris. Le bonheur était ici. Éblouissement de l'amour. Ce fut, dans le paysage, il avait eu l'impression jusque-là que les sombres sapins dressés à l'horizon le retenaient captif. Ce fut comme une soudaine aurore qui métamorphosa toute chose magiquement. Il eut enfin conscience du charme de cette cité vieillotte, qu'il jugeait injustement sans caractère, sans originalité. Il vit enfin les oiseaux voltiger dans le ciel et, plus que naguère, il prêta l'oreille à leur première chanson, dont le vent léger et odorant recueillait la moindre mélodie pour la porter au plus haut de l'azur, en même temps qu'au plus secret de son cœur. Éternel miracle. Thérèse se mettait au piano, et alors, le souffle suspendu, il pénétrait la suite de la musique dans un domaine enchanté où elle était fée. Au loin, c'était le grondement sourd, tragique même, de la chute d'eau. Ici, un limpide ruissellement de cristal, un éparpillement de gouttelettes sonores qui lui rafraîchissaient l'âme. comme il l'aimait, cette belle et grave Thérèse, aux yeux énigmatiques, souvent voilés par les cils palpitants, et qu'il eût voulu saisir, étreindre doucement ses petites mains blanches qui erraient sur les touches d'ivoire. Ses ongles discrètement rosis faisaient penser à des joyaux qui s'égrenaient harmonieusement sur le clavier, éveillant chacun une note. Mais l'aimait-elle? Et alors, à cette objection qu'il était bien obligé de se faire, puisqu'il n'avait pas encore avoué ses propres sentiments, le paysage, si riant tout à l'heure, s'assombrissait, les fleurs perdaient leur odeur. La jeune fille, qui avait 24 ans, et qui, sauvage, farouche, ne sortait guère, était une amie de Madame Vorège. C'est par cette dernière qu'il l'avait connue. Depuis sa douloureuse aventure nocturne, la repentante fautive avait retrouvé sa sérénité, son équilibre. On sentait que son cœur était délivré pour jamais d'un ardent poison. Le ménage marchait à la perfection. On ne voyait plus l'auto de Morève, qui semblait avoir abandonné le pays. Aussi, le père Butois, ragaillardi, pouvait-il jeter aux échos du matin ces beaux temps, de plus en plus vibrants. Que ne cherchait-il à avoir une certitude? C'est que Thérèse, elle avait perdu sa mère de bonne heure, était la fille du directeur de l'usine, M. Touvagne, personnage important. Et pourtant, le veuf avait pris son nouvel ingénieur en amitié. Il l'invitait chez lui, de là ses séances de musique. Jeune homme éloigné des siens, Pierre goûtait dans ce milieu cordial les joies délicates de la famille, plus encore que chez les Vorèges, pourtant si sympathiques. Mais une union était-elle possible? Tout de même, il y avait une telle différence de situation. Pierre Damazine avait flambé d'un seul coup, tout entier. Il était bien de cette race d'homme, volonté taciturne, épris d'absolu, qui fuit la clarté, plaisante sans doute, les amourettes faciles, et qui, pour embraser leur vie, veulent la lumière dévorante d'un seul amour, leur cœur sombre se vouant à un unique brasier. Que de fois, le soir, lorsqu'il n'était pas invité, passait-il dans son canoë sous les fenêtres de la maison dont le vaste jardin descendait jusqu'à la rivière. Il ne pagayait plus, il restait inerte, l'eau le faisait dériver doucement avec un molle clapotis, et il avait l'impression d'être mystérieusement guidé, dans l'ombre étoilée, par le frémissant fil d'Ariane de la musique. Pourtant la jeune fille ne jouait que des airs tristes qui semblaient l'emporter, les yeux mi-clos, loin du monde, telle une Ophélie presque sans conscience, se laissant aller au fil d'une onde déjà funèbre. Parfois son père, de caractère exubérant, jovial, protestait. « Voyons, mon enfant, un peu d'opérette pour nous égayer. Sinon je fais marcher la TSF. Tu as l'air de porter le diable en terre. » Elle s'exécutait, docile, mais à contre-cœur. À ce moment, pensait-elle à sa mère, chère morte, qu'elle avait pourtant peu connue et dont chaque dimanche elle fleurissait la tombe. Pierre Damazine oserait-il jamais se déclarer? Il n'était en somme qu'un employé et d'origine modeste. Mais M. Touvagne, qu'il paraissait avoir deviné son émoi, avait l'air de l'encourager par ses sourires, ses amabilités. Depuis quelque temps, il multipliait les invitations. Ce grand personnage, parti de rien, était arrivé à la force des poignets, et il se plaisait souvent à le dire hautement, peut-être pour vaincre l'hésitation du timide soupirant. Il prisait davantage, dans un jeune homme, la valeur intellectuelle que la fortune. Or, il appréciait fort son ingénieur. L'avoir pour gendre ne lui déplairait peut-être pas. Ce fut dans cet espoir que Pierre s'ouvrit à Thérèse de ses sentiments. Au premier mot, elle pâlit et fit un geste de refus. « Non, » dit-elle aussi fermement qu'elle put, en secouant la tête et en dérobant son regard si franc d'ordinaire. « Impossible !» On la sentait à la fois frémissante et butée, malheureuse et résolue. Qu'est-ce que cela signifiait? Votre père s'opposerait-il? Il ne s'agit pas de lui. Donc, de vous. Alors un fiancé. Il prononça ce mot avec effort tant il craignait de tomber juste. Pourtant, elle sortait peu, ne voyageait pas. Comme relation, elle n'avait guère que les Vorèges. Comme jeune homme, elle ne paraissait connaître que lui. Mais sait-on jamais? Oui, je comprends, un fiancé, reprit-il. Pas davantage, affirma-t-elle. Il respira. Rien n'était perdu. Mais aussitôt, pour ne lui laisser aucun espoir, elle ajouta, sur un ton plus catégorique encore, « Je vous en prie, n'insistez pas. » Et elle s'éloigna. Ce soir-là, prétextant une migraine, elle ne joua pas du piano. M. Touvagne en fut quitte pour mettre en marche la TSF.
Pierre partit bientôt. Il monta dans son canoë. Son fil d'Ariane brisé, sans rien désormais pour le guider vers le bonheur, il alla longtemps dans l'ombre, au hasard. La nuit était noire, sans une étoile. La rivière, ténébreuse. Là-bas, la nappe pesante de la chute d'eau semblait submerger sa vie. Ah, que ne se dirigeait-il pas de ce côté pour être fracassé contre les rochers, pour se perdre dans les obscurs remous où il trouverait la mort et l'oubli. Mais à son âge, on n'attend pas à ses jours. L'aube qu'il vit naître apaisa sa fièvre. L'aurore rayonna. Après l'ombre, le soleil. Non, non, il ne voulait pas s'avouer vaincu. Grandissant toujours, son amour espérait flamber plus haut que le mur de feinte indifférence que Thérèse dressait maintenant devant lui et derrière lequel elle se réfugiait, tremblante et farouche, comme un animal traqué, déjà blessé par le chasseur et qui appréhende le coup de grâce. Il avait assez d'expérience sentimentale pour voir, ou plutôt pour sentir, qu'en sa présence, elle était émue, troublée, désemparée, au supplice. Donc, mais oui, elle l'aimait, c'était clair, alors. Il la pressa de nouveau. Ah, gémit-elle, à bout de force, lasse de lutter, de se dérober, de le faire souffrir inutilement. Je vous l'ai dit, impossible, hélas, renoncez à moi, il le faut, pour notre tranquillité à tous deux. Mais enfin, je ne suis pas celle que vous croyez. Qui n'a ses défauts ? Voulait-il plaisanter. Les vôtres sont certainement moindres que les miens, car j'en ai d'énormes, vous savez, mais le mariage n'est plus pour moi. Cette fois, elle en avait trop dit, ou pas assez. Il insista. Ah, mon ami, il faut que je vous guérisse par la cruauté, murmura-t-elle. Cécile palpitait éperdument comme pour faire obstacle aux larmes qui voulaient noyer ses prunelles, et elle avoua, d'une voix qui n'était qu'un souffle, « Je ne suis plus une jeune fille. Comprenez-vous, un homme a passé dans ma vie. Oh, personne n'en a rien su, pas même mon ami Marie Borège, à plus forte raison mon père. Vous voyez bien, poursuivit-elle avec une sombre exaltation, que vous devez me fuir, me laisser seule. » Ah, si je ne vous aimais pas, peut-être n'aurais-je pas eu ce courage désespéré, ces scrupules, cette honnêteté. J'aurais fait comme d'autres qui oublient, recommencent leur vie. Mais je vous aime trop. » Elle haletait et lui restait sans voix. Confidence singulière d'une âme trop absolue. Tous deux souffraient, elle de son pitoyable passé, lui de son rêve brisé. Là-bas, la chute d'eau roulait son sourd tonnerre, dont le fracas faisait plus pathétique leur silence angoissé. Enfin Pierre interrogea, « D'où est-il rompu ?» Quel cri sincère lui répondit. « Oui, et pour toujours. » L'autre, elle ne l'avait jamais aimé. Savait-elle l'homme lui ayant mensongèrement donné sa parole qu'il l'épouserait. Un moment d'abandon, de folie, une soudaine surprise de la chair, pareil à ses souffles brûlants, annonciateurs des orages, qui en quelques instants dévastent les candides promesses du printemps, une brève aventure qu'il avait meurtrie pour jamais et qu'elle expiait dans la solitude. Se suppliciant lui-même, Pierre voulut savoir qui était le rival embusqué dans l'ombre de la mémoire, et soudain, surgi du passé à la faveur de ses douloureuses confessions, plus redoutable encore de lui être inconnu. Il était de ces êtres qu'il veut mettre un nom sur le fantôme sans visage qui les tourmente. Thérèse mit longtemps à le lui révéler, par pudeur d'abord, et puis elle craignait que dans l'excès de la douleur, il ne fît quelque esclandre qui la meurtrirait davantage, puisqu'elle l'aimait follement. Hélas, il était venu trop tard, et que l'autre était de taille à se défendre, que les scrupules ne l'étouffaient point, témoin sa façon d'agir avec elle. Et cette aventure remontait à quelques années. À la fin pourtant, elle chuchota. Gustave Morov. Encore lui ! Ah, celui-là, il ne méritait que trop sa réputation de séducteur. Et Pierre revivait la pénible scène nocturne dont il avait été le témoin secret. Il entendait les sanglots de Madame Borège, la voix véhémente, puis brusquement brisée de son père. Le vieux fermier avait raison, un tel être ne méritait qu'un coup de fusil. Encore une victime, Thérèse, et la plus innocente, la plus pitoyable, à coup sûr. Toutes, qu'est-ce qu'elles avaient donc ? Comment cette jeune fille, si fine, si réservée, si sensible, avait-elle pu ? Mystère du cœur féminin, ou plutôt, sans mère pour la veiller, la mettre en garde, la défendre.
n'avait-elle pas été victime de ce démon de la solitude qui, parfois, chuchote ses conseils de perdition dans les alcôves les plus virginales? Une année, Gustave Morov avait chassé en compagnie de M. Daubagne. Celui-ci, qui connaissait pourtant sa réputation, mais, n'est-ce pas, Thérèse n'était pas pareille aux autres, l'avait convié à plusieurs reprises à sa table, et voilà. Depuis, on ne l'avait plus revu, ce dont d'ailleurs le brave homme s'étonnait en toute candeur d'esprit. « Tout est-il bien fini ?» interrogea de nouveau Pierre Damazine, sans savoir encore quelle décision il allait prendre. Elle le lui jura. Et à voir la clarté de ses yeux lavés par les larmes, purifiés quoique rougis par leur sel amer, on la sentait d'une sincérité absolue. Toute une innocence refleurissait en elle. L'orage dévastateur était loin. Il lui tendit la main et partit sans ajouter un seul mot. Soulevant un rideau, elle le regarda s'éloigner. Quand il eut disparu, elle laissa retomber le tulle blanc qui, par une sorte de dérision, la couvrit de ses plis vaporeux comme pour lui faire regretter le voile de mariée qu'elle ne mettrait jamais. Jamais. Alors, elle éclata en sanglots. Elle l'aimait de toute son âme. Ah, pourquoi lui avait-elle fait cet aveu? La nuit était venue. Elle restait inerte dans le noir. « Eh bien, ma petite Thérèse, tu joues à cache-cache dans l'obscurité ?» C'était la bonne voix de son père. « Au piano, vite, mon enfant, je viens de me casser la tête sur des chiffres, j'ai besoin de me détendre. »« Papa, je voudrais bien, mais j'ai une affreuse migraine, c'est pourquoi je n'allumais pas. »« Alors recourons à la TSF, cela ne va pas aggraver ton mal, non ? D'ailleurs, je vais la faire marcher doucement. » Et en allègre conclusion de ce drame, un refrain d'opérette se fit entendre. Une fois dans la rue, Pierre avait secoué les épaules comme un homme qui rejette un fardeau. Il n'en restait pas moins accablé. Que faire désormais? Des promenades sentimentales au clair de la lune dans son canoë? À quoi bon? Il voulait guérir, et ce ne serait pas le moyen. Mais oui, pourquoi ne point partir pour Paris? Il allait prendre sans tarder le congé auquel il avait droit. Qui sait même si là-bas il ne trouvera pas une situation? Au besoin, ayant des économies, il pourrait attendre, et puis... Oui, une chevelure blonde, dont l'or se réveillait dans sa mémoire. Quel lumineux pansement pour son âme sombre, si cruellement blessée. 3 jours après, il déjeunait au prix fixe. De nouvelles têtes, mais le patron le reconnaissait aussitôt. Mademoiselle Gagin? Non, elle ne vient plus guère. Ou alors par hasard, en sortant du palais de justice. Ah, vous ne savez pas. Elle est maintenant secrétaire de maître Malbert, un jeune avocat qui est en train de faire son chemin. Il ira loin. Et avec orgueil. Un de mes anciens clients, lui aussi. À cette époque, mes repas, 7,50 francs. Je pouvais les donner pour 5,50 francs. La vie chère. Ça remonte donc à quelques années. Le lendemain, Pierre Damazine était au palais et cherchait Solange Gagin dans la houle des robes noires. Que je suis heureuse de vous revoir. Toujours le même rire vibrant qui enveloppait toute chose d'un frémissement de gaieté. Et qu'elle était jolie. Quelle délicieuse compagne elle ferait. Il s'efforçait de chasser un autre visage à la bouche sérieuse, aux yeux si pathétiques, qui, quand même, et quoi qu'il fît pour l'éloigner, arrivait à s'imposer. « Vous tombez bien, » continuait Solange Gagin. « Vous êtes à Paris pour plusieurs jours, oui ? Eh bien, après-demain, Maître Malbert plaide d'une affaire sensationnelle. Un homme du monde qui a surpris sa femme et qui, pan, pan, sur le complice, mort. » Il fit malgré lui un geste, encore un séducteur. Qu'est-ce qu'elles avaient donc toutes ? Alors, elle, se méprenant avec une moue, toutefois sans ironie. « C'est vrai, dans votre coin de province, on ne voit pas des choses pareilles. Jamais le moindre scandale, ou bien on les étouffe. Maître Malbert défend le comte de Stalirec. Sa plaidoirie, une merveille. Naturellement, l'acquittement ne fait aucun doute, mais cela le lancera davantage. On s'écrasa aux audiences. Il faut venir, je vous caserai. » Pendant les débats, Pierre Damazine ne put s'empêcher de donner au mort inconnu les traits de Gustave Morov. Dans un brouhaha odorant, le sang répandu perdait sa pourpre et sa fade odeur sous un flot mondain de papotage, d'élégance et de parfum. La salle se vidait lentement. Solange Gagin arrivait enthousiaste. « Hein ? Quel talent ! Quel succès ! Je suis follement heureuse. Venez que je vous présente. » Monsieur Damazine, un bon camarade du quartier, Maître Malbert, mon fiancé. Et avec la tendre humilité d'une femme dont le mari sera l'orgueil, elle expliquait « Moi, je ne plaiderai sans doute jamais. Je lui préparerai ses dossiers. » Pierre, écourtant son congé,
la chevelure d'or illuminerait une autre vie, revint à Balois sur Télouse. Là, pendant 6 mois, il médita et souffrit. Et enfin, il demanda la main de Thérèse. Oui, son cœur, mis à l'épreuve, était assez fort pour oublier. Leur étreinte écraserait ce fantôme d'un homme qui n'avait fait que passer. Émue, bouleversée par cette preuve d'amour, la jeune fille s'abandonna aux bras qui s'offraient. Ils s'épousèrent. Leur bonheur fut complet. Jamais, par un accord tacite, le nom de l'autre n'était prononcé. Il était comme mort. Parfois, pourtant, mal enseveli malgré tout, il surgissait dans la mémoire de Pierre, qui, de toute son énergie, le chassait. Et même, comme pour laisser le couple en repos, on n'entendait plus que de loin en loin la trompe de l'auto rouge. « Dis donc, ma chérie, tu ne trouves pas? Regarde-la bien. » Pierre désignait sa femme, leur jeune bonne, Célinie, qui, après avoir servi le café au jardin, s'en allait, lente et lasse, la tête basse, vers la maison. Il était si alerte d'ordinaire. C'était une fille de 17 ans, presque une gamine, originaire d'un village voisin caché là-bas derrière les sapins de la montagne. Aînée d'une fille de 8 enfants, ayant perdu son père, accablée de besogne par une mère paresseuse et intempérante, il l'avait prise par charité. D'ailleurs, il n'avait pas à regretter leur geste, car cette Célinie leur était aveuglément dévouée. Qu'elle était triste, craintive en arrivant et efflanquée. Elle avait tant pâti. Puis ses joues avaient retrouvé les couleurs de la santé. Elle fredonnait, telle une abeille diligente, dès son réveil, comme pour faire écho au père Butois. Pas vieilli, le brave homme, qui, de l'autre côté de la rue, criait toujours ses joyeux beaux temps aux passants. Et voici qu'elle était redevenue sombre, qu'elle traînait les pieds. Vraiment, on eût dit qu'un fardeau l'alourdissait. « Oui, regarde-la, » reprit Pierre. « Mais c'est vrai. » « Où avais-je les yeux? Tu dois avoir raison. Serait-ce possible ?» Il s'était compris à demi-mot. « La malheureuse, » continua-t-elle, sincèrement apitoyée. « Je la questionnerai lorsque tu seras parti. Tu l'intimiderais trop. Mieux vaut être entre femmes. » Et un quart d'heure après, « Célinie, soyez franche, ma petite. N'est-ce pas que vous avez fauté ?»« Mais non, je ne vous renverrai pas. » Le ton était si doux, si exempt de reproches, une telle pitié y vibrait, que la jeune fille éclata en sanglots. Elle eut ce geste instinctif, révélateur des futures mamans. Elle croisa les mains sur son sein. « Oui, madame, octa-t-elle, c'est vrai, que j'ai de honte. Qui, on pourra sans doute le faire réparer. Qui, oh madame, il ne voudra pas de moi. Pourquoi, voyons, allons, c'est... C'est monsieur Morov. »
Celle-ci, quelle proie facile. Pour troubler cette gamine privée d'affection, de soutien, de conseil, il avait suffi de quelques sourires doucereux, de quelques mots à la fadeur sucrée comme ces bonbons que les enfants, alléchés, achètent dans les fêtes foraines. Amèrement, Thérèse faisait retour sur son passé. Lorsque Pierre rentra, il l'interrogea.
« Eh bien, cette pauvre Célinie, hélas, tu avais raison. »
« Qui ? » demanda-t-il lui aussi.
« Un garçon du village. » Je vais voir si je peux arranger cela.
Tu ne crois pas que moi j'aurai plus d'autorité?
Non, non, je t'en prie.
En tout cas, on la garde, fit-il.
Naturellement, je le lui ai promis. Elle a bien des excuses. Elle vit on ne sait comment.
Ainsi, Thérèse mentait, pour la première fois, à son mari.
Mais pour rien au monde, elle n'eût prononcé le nom de l'autre, qui si inopinément se trouvait de nouveau sur son chemin. Quant à intervenir auprès de lui, plutôt mourir. L'enfant de Céline n'aurait point de père. L'ingénieur dut s'absenter pendant quelques mois. Il étudiait en Amérique une installation électrique. Au retour, sa femme se blottit tendrement sur son cœur. « Je n'ai pas voulu t'écrire pour te laisser la surprise, devine !» Elle attendait un enfant. Le baptême fut célébré en grande pompe. Quelle pure allégresse les cloches mettaient dans le ciel auquel un automne d'une grande douceur avait laissé tout son azur. Leurs vibrations semblaient rythmer la danse aérienne des oiseaux qui pouvaient se croire encore au cœur de l'été. Pourquoi Pierre Damazine vit-il, dans la foule sympathique, droit parmi les gamins se disputant les dragées et les sous qui roulaient dans la poussière, « Beau temps pour un baptême !» criait le père Butois, qui avait mis sa redingote de cérémonie, tandis que dans sa cuisine, Célinie, fille mère, pleurait doucement. Pourquoi vit-il Gustave Moreau en tenue de chasseur?
Que faisait-il là, cet homme, à cette heure si pure? Et quel sourire, où il crut discerner de l'ironie crispait ses lèvres mauvaises.
Pourquoi, au cours du repas, Pierre Damazine, prêtant l'oreille aux propos de deux invités qui, certes, n'y entendaient pas malice, apprit-il incidemment que l'autre avait séjourné dans le pays pendant sa longue absence, et que son beau-père l'avait même reçu une fois, visite dont le brave homme n'avait point songé à lui parler. Mais sa femme, pourquoi avait-elle gardé le silence?
Pour ne pas le tourmenter, c'était clair.
Pourtant, malgré la foi qu'il avait en Thérèse, presque à son insu, il se prit à faire des calculs au sujet de l'époque de la conception. L'autre savait si bien s'introduire nuitamment dans les maisons, témoin son aventure chez les Borèges. Un instant, le temps d'un éclair éclaboussant les ténèbres de son feu sanglant, il vit même un homme étendu, mort à ses pieds. Il entendit la voix pathétique de Maître Malbert, assisté de Solange, le défendant lui, Pierre, aux assises. Il tressaillit, comme un coup de feu, lorsque la première bouteille de champagne fut débouchée. Les rires, les vivats emportèrent ses sombres visions. Décidément, il était fou avec sa jalousie rétrospective. Sa confiance triomphait, entière. Et tendrement, il se pencha sur son petit François, si beau, si rose, dans tout ce blanc.
Zélini, dit doucement Madame Damazine, vous allez prendre votre bicyclette et porter ce paquet à votre mère. Il y a des sucreries pour vos frères et sœurs et des lainages pour votre enfant.
Celui-ci, sa grand-mère le gardait.
Il faut que tout le monde fasse la fête, je suis si heureuse, pensait-elle. Et un radieux sourire éclairait son visage. C'était le lendemain du baptême, de grand matin. Monsieur Toubagne, ravi, contemplait son petit-fils endormi dans son berceau. Ah, il n'était plus question de faire marcher, même en sourdine, la TSF. Troubler un sommeil si émouvant, jamais. Et quelle musique, volée gazouillie, parfois les pleurs, du réveil.
Pierre, fit-il à son gendre en train de s'apprêter, je n'irai pas à l'usine aujourd'hui.
Oui, un peu mal à mes derniers cheveux.
Dame, j'ai trop bu au bonheur de cet important personnage. Prenez l'auto.
Merci, je préfère aller à pied, la marche au grand air me réveillera.
Il se mit en route. Un brouillard épais pesait sur la campagne.
Tout à fait le temps qu'il faisait lors de son arrivée à Balloir-sur-Télouse.
On ne distinguait rien à quelques mètres. Les arbres entreaperçus avaient des allures de fantômes, et égouttant leurs branches dans le silence, ils semblaient répandre de lourdes larmes. Même le bruit de la chute d'eau arrivait, assourdi, comme si cette ouate humide lui fait obstacle. Pierre Damazine cheminait lentement. Deux voix, à sa gauche, l'une railleuse, l'autre dolente. Morove et Céline. Celle-ci, se rendant chez sa mère, avait rencontré celui-là qui, le fusil à la bretelle, attendait que le soleil perçât la brume. À moins qu'elle ne lui ait donné rendez-vous.
Vous savez bien que mon enfant est de vous.
Bien sûr, je ne vous demande pas de m'épouser, mais je vous en supplie, faites quelque chose pour moi. Vous êtes riche, vous le pouvez. Le pauvre petit, il a bien assez de malheur comme ça. Pas de papa. Hier, le beau baptême me saignait le cœur.
Bien sûr, madame est bonne pour moi, c'est une sainte.
L'autre se taisait, mais soudain il éclatait. Tais-toi, j'en ai assez de tes jérémiades. Tiens, voilà un billet de 100 francs, il ne revient pas. File ! Il ricanait méchamment.
Ah ah, une sainte, ta madame Damazine, première nouvelle. Pour ton mioche, c'est dommage que tu ne sois pas marié.
Il aurait un père en plus de moi.
Ça arrive, ces choses-là.
Calomnie gratuite.
Il n'empêche que Pierre fut sur le point de bondir. À quoi bon?
Il se contint, et laissant le couple, il prit un chemin de traverse.
Une heure après, ayant quitté l'usine, il se trouva. Cette rencontre, il ne l'avait pas cherchée. Face à face avec Morove, un brouillard commençait à se dissiper. Une vague rougeur désignait la place du soleil. C'était juste au-dessus de la chute d'eau dont le tonnerre retentissait à une centaine de mètres.
« Bonjour, cher monsieur, » fit l'autre fort à l'aise.
« Bonjour, »
grogna Pierre Damazine qui voulut se détourner.
« Oh, oh, vous êtes bien fier. La paternité, sans doute. Vous vous souvenez de notre première rencontre et de mes propositions?
Vous avez préféré le mariage.
Mes compliments.
Elle est d'ailleurs exquise, madame Damazine, la compagne rêvée.
Taisez-vous, je vous défends. »
Le sourire équivoque de Morove lui avait paru plus ironique encore que la veille, presque insultant, victorieux. Ce fut bref.
Quelques mots échangés, secs comme les détonations d'un duel au pistolet, si bien que, se croyant bafoué, est soudain repris par le vieil instinct de possession qui affole le mal le plus civilisé, Pierre Damazine se rua. « Vous êtes fou, mon cher, railla Morov, dressé de toute sa taille et son fusil au poing. Une main qui se lève, une lutte rapide, le terrain qui cède, des pierres qui dégringolent dans l'abîme, un cri, un homme qui chancelle, tombe, l'autre qui se raccroche de justesse à un arbre. »
Midi. Midi et demi. Madame Damazine s'inquiétait. Son Pierre, si exact, n'était pas encore entré. Que pouvait-il faire? Elle ne tenait pas en place. Son père, tout en riant à François qui agitait ses menottes potelées, essayait de l'apaiser. « Tu te mets inutilement martel en tête. Pense qu'il n'était pas allé à l'usine hier. Alors il a trouvé du travail en retard. Et c'est la conscience en personne, ton mari. » M. Touvagne devait avoir raison. Pourtant, elle souleva le rideau. Il lui parut que là-bas, des groupes se formaient devant la mairie. Son père se leva. « C'est bien simple, mon enfant. Pour te tranquilliser, je vais traverser la rue et demander ce qu'il en est à Borège, qui lui est sans doute de retour. » À ces moments, Céline entra, livide, les mains tremblantes. « Madame, monsieur, quel malheur !»«
Quoi, mais quoi, expliquez-vous !»
cria Thérèse.
« Ah, madame, il avait beau être méchant, c'était tout de même le père de mon petit. Monsieur Morov, mort !»
Un ouvrier de l'usine venait de le trouver dans les rochers. Accident, cela ne faisait aucun doute. En cherchant quelques gibiers, il avait perdu pied. « Pauvre diable !» dit Monsieur Toubagne, sincèrement. Et il prit à témoin son gendre qui arrivait. Celui-ci, maître de lui, il avait repris son calme en se promenant dans la campagne, prononça sans effort apparent les paroles de circonstance. Oui. Accident. Malgré sa fureur, Pierre Damazine n'avait tout de même pas voulu cela. Mais Thérèse, torturée au plus intime de son être, tant elle avait de sensibilité, ne crut pas se tromper lorsque la nuit suivante, ne sentant plus son mari à côté d'elle et se levant, inquiète, car il s'était longtemps retourné et même, dans un bref cauchemar, il avait prononcé quelque temps quelques mots révélateurs. Elle le surprit, debout près du berceau, en train d'examiner avec des yeux singuliers, hallucinés, leur enfant, la chair de leur chair, le sien, à lui, Pierre, car elle était fidèle. « Oh !» gémit-elle, bouleversée en tombant dans ses bras. « Pardon » murmura-t-il en l'étreignant désespérément et en cachant son visage dans le creux d'une épaule frissonnante. « Embrasse-le, tu le peux. » fit-elle. Rien d'autre ne fut prononcé. Thérèse sentait bien que c'en était fait de leur bonheur, du moins jusqu'au moment où, perdant sa forme indécise, le visage de celui qui venait de naître ne révélerait aucun des traits du mort. Et ils étaient là, tous les trois, les parents, muets d'horreur, suppliciés, et l'innocent endormi, ignorant, lui, quelle tragédie de la chair et du sang appesantissait sa sinistre nuit d'ombre et de pourpre sur les dentelles et les mousselines candides où il était blotti, comme dans une nef fragile mettant à la voile en plein orage. La mère se pencha sur le berceau, entraînant son mari. Leurs lèvres se rencontrèrent sur le front pur, leurs larmes s'y mêlèrent. Alors, n'est-ce pas, ce visage chéri, elle arriverait bien, forçant même la nature, à le modeler par ses baisers fervents tout à fait à l'image du misérable bien-aimé qui, en proie au remords d'avoir douté, de douter encore peut-être, sanglotait sur son cœur. Deux ans après, quittant sa Bretagne, la vieille Madame Damazine, qui a perdu son mari, est venue habiter chez ses enfants. François trottine dans le jardin, court après les pigeons du père Butois, dont les beaux temps semble mettre en fuite le temps lui-même, car l'ancien fermier est toujours droit comme un nid. C'est à qui, d'elle et de M. Touvagne, fera assaut de gâterie. « Oh, Pierre !» s'écria la grand-mère. « Comme il est bien chez nous. C'est un Damazine tout craché. Regarde ses yeux. Il n'a rien, les Touvagne, » dit-elle au grand-père qui ne paraît pas très content. Et elle ajoute « Tiens, il vient de faire une de ses mines, tout à fait à toi, à son âge. Impossible de s'y tromper. Cela me rajeunit de 30 ans. » Alors Pierre saisit son fils, l'élève vers le ciel bleu comme un trophée de victoire, puis il le pose, rieur, gigotant, dans les bras de Thérèse, et les embrasse tous les deux.
Ainsi s'achève L'ombre sur le berceau par Gabriel Volant.